Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 13h en temps universel, 23h à Canberra.
RFI Midi.
Anne Cantner.
RFI Midi, suite et fin, avec Haïti à la une. Les premiers policiers kényans sont enfin arrivés hier, d'autres suivront demain. Reportage dans la capitale et analyse avec un expert de l'International Crisis Group dans quelques minutes. Et puis comme chaque jour, notre revue de presse et l'actualité des Outre-mer. Tessa Groman, nous irons avec vous en Guadeloupe. À trois jours du premier tour des législatives, les mairies sont débordées.
Par les demandes de procuration, plus de 1000 à la mairie des Abîmes, plus grosse commune de l'archipel en nombre d'électeurs.
À tout à l'heure, on vous appelle dans quelques minutes. Et nous, on va faire le point tout de suite sur l'actualité internationale. Avec vous Gilles Moreau, Julian Assange est de retour chez lui en Australie.
Oui, après de longues années de captivité à Londres, le célèbre lanceur d'alerte fondateur de Wikileaks est arrivé dans la capitale australienne, Canberra. Auparavant, il avait plaidé coupable d'espionnage devant la justice américaine. Il est maintenant libre de ses mouvements au terme de l'accord signé avec l'administration Biden. À son retour à Canberra, ce n'est pas lui mais sa femme Stella qui a fait cette déclaration à la presse.
Julian wanted me to sincerely thank
Julian voulait que je vous remercie sincèrement, chacun d'entre vous. Il voulait être là, mais vous devez comprendre ce qu'il a enduré. Il a besoin de temps, il a besoin de récupérer, et c'est tout un processus. Je vous demande, s'il vous plaît, de nous donner de l'espace, de nous donner de l'intimité, de laisser notre famille être une famille, avant qu'il puisse parler à nouveau au moment de son choix. Cette affaire judiciaire est une attaque contre le journalisme. C'est une attaque contre le droit du public à être informé. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Julian n'aurait jamais dû passer un seul jour en prison. Aujourd'hui, nous célébrons parce qu'aujourd'hui, Julian est libre.
Stella Assange, femme de Julian Assange, traduction assurée par Joris Zilberman. Le Kenya vient de connaître une journée de chaos. Le pays se retrouve plongé dans l'incertitude alors que le projet de budget 2024-2025 au cœur de la contestation qui secoue le Kenya doit être voté avant la fin de la semaine. Hier, et de sources médicales, au moins 23 personnes ont été tuées en marge des manifestations anti-gouvernementales à Nairobi et dans sa grande banlieue à Githurai. Bilan provisoire, il risque d'être encore revu à la hausse.
Le journaliste américain Evan Gershkovitch a commencé à comparaître devant un tribunal à Yekaterinbourg en Russie.
Oui, c'est un procès à huis clos dont la première audience vient de se tenir. L'accusé est détenu en Russie depuis 15 mois pour des accusations d'espionnage qu'il rejette. Evan Gershkovitch encourt jusqu'à 20 ans de prison. Mais depuis plusieurs mois, Moscou et Washington mèneraient des négociations en vue d'un échange de prisonniers. Yelena Tomic, que sait-on de ces négociations ?
Même si les relations sont au plus bas entre la Russie et les États-Unis, la diplomatie de l'ombre ne s'arrête jamais, et notamment lorsqu'il s'agit du sort des prisonniers. Un sujet sensible, Gilles, pour les États-Unis, sachant que la Russie détient actuellement plusieurs Américains, dont Paul Whelan, un ex-marine condamné à 16 ans de prison pour espionnage, accusation qu'il conteste. Ces négociations, par définition confidentielles, ne sont généralement révélées au grand public qu'au moment de la libération et de l'échange de prisonniers. Dans le cas d'Evan Gershkovitch, plusieurs pistes indiquent que des pourparlers sont en cours. En février, Vladimir Poutine avait admis discuter avec Washington et sous-entendu un échange avec Vadim Krasikov, un Russe condamné à la perpétuité en Allemagne après l'assassinat en 2019 à Berlin d'un ex-commandant séparatiste tchétchène. Un haut diplomate russe avait révélé aussi que Moscou avait bien fait une proposition d'échange de prisonniers, mais sans préciser le contour exact de l'offre et d'ajouter que la balle était dans le camp des États-Unis. Des observateurs affirment enfin qu'un échange n'est pas exclu, mais qu'il n'interviendrait pas avant le verdict qui pourrait être prononcé dans plusieurs semaines.
Merci Yelena Tomic. La Russie, toujours elle, a réagi à la nomination de Mark Rutte comme prochain secrétaire général de l'OTAN. Aucun changement à en attendre selon le porte-parole du Kremlin. La ligne de l'alliance restera selon lui hostile. À l'inverse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue un dirigeant fort et respectueux des principes. Ce matin, les 32 pays membres de l'OTAN ont nommé le premier ministre néerlandais Mark Rutte. À 57 ans, il prendra ses fonctions le 1er octobre en remplacement du Norvégien Jens Stoltenberg.
La Cour suprême du Brésil vote la dépénalisation de la possession de cannabis.
Oui, vote intervenu par 8 voix sur les 11 juges de la Cour. Cela étant, posséder du cannabis reste un acte illicite. Mais Antoine Galens n'est plus passible d'une peine de prison.
Oui, on parle bien de possession à usage personnel et il faut bien faire la distinction avec le trafic qui, lui, est passible de 5 à 20 ans de prison. Ce n'est pas une législation. La possession de cannabis reste un délit, mais les peines seront plus légères comme des travaux d'intérêt général. Les juges doivent encore fixer la quantité maximale autorisée pour une consommation personnelle. Ce sera lors de la nouvelle session ce mercredi. Alors qu'est-ce qui a motivé ce jugement ? Eh bien, c'est justement cette différence de traitement entre le trafic et la consommation personnelle. Lors du procès d'août 2023, le juge Alexandre de Moraes avait dénoncé une situation discriminatoire. Selon lui, je cite, « Au Brésil, les jeunes, surtout les noirs, sont considérés comme des trafiquants s'ils sont arrêtés alors même qu'ils possèdent beaucoup moins de drogue que des blancs de plus de 30 ans. » Le sujet du cannabis reste très controversé au Brésil où les mouvements conservateurs sont largement opposés à toute dépénalisation.
Merci Antoine Galène pour toutes ces précisions. J-4 en France. Dans 4 jours se tiendra le premier tour des élections législatives. Hier soir avait lieu un premier débat télévisé avec la participation des représentants des principaux camps. Gabriel Attal, Manuel Bompard et Jordan Bardella. Un autre débat suivra demain jeudi. Et puis à l'approche du premier tour, plusieurs groupuscules d'ultra-droite, dont le GUD présent à Paris et les Remparts basés à Lyon, ont été dissous ce matin en Conseil des ministres. La Cour d'appel de Paris valide le mandat d'arrêt émis par des juges d'instruction contre Bachar al-Assad. Le président syrien est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques d'août 2013, imputées au régime. On y revient plus en détail dans le journal de 16h.
À mi-chemin entre la finance et l'environnement, la Banque Centrale Européenne a publié son deuxième bilan relatif au climat.
Oui, les émissions carbone du portefeuille des entreprises de l'eurosystème, c'est-à-dire la BCE, ainsi que les banques centrales des pays de l'eurogroupe, ces émissions ont continué à baisser, mais la Banque Centrale Européenne ne compte pas en rester là. Elle entend surveiller de plus près, Pauline Glaise, l'impact carbone de son portefeuille.
La Banque Centrale Européenne détient pour encore environ 350 milliards d'euros d'obligations d'entreprises, de l'argent prêté y compris à des secteurs polluants. Ce portefeuille, il peut vertir de deux manières, soit par un effet externe, les entreprises liées à cette obligation émettent elles-mêmes moins de gaz à effet de serre, soit la BCE choisit ses placements en fonction des critères environnementaux. D'ailleurs, désormais, lorsque des titres arrivent à échéance, l'institution de Francfort assure réinvestir l'argent de préférence dans les entreprises les moins émettrices. Cette stratégie représente un cinquième de la réduction de l'empreinte carbone du portefeuille de l'eurosystème en 2023. La BCE entend être en ligne avec l'accord de Paris. Elle veut maintenant se fixer des objectifs intermédiaires. Si elle dévie de sa trajectoire, alors elle prendra des mesures correctives. Pour l'instant, elle n'a pas précisé comment. Une source au sein de l'institution explique que l'une des options pourrait être de vendre certains actifs pour en racheter des plus verts. Mais cela reste une hypothèse.
Pauline Glaise, encore un mot de football, Anne, si vous me le permettez. Ah, l'Euro, c'est l'ultime journée de la phase de groupe, à suivre surtout les matchs du groupe E, où, fait inédit, les 4 pays, Belgique, Ukraine, Slovaquie et Roumanie, ont le même nombre de points. Ce soir, les matchs Belgique, Ukraine et Slovaquie et Roumanie, et puis deux matchs aussi dans le groupe F, Portugal, Géorgie et Turquie, République tchèque.
Merci Gilles Moreau. On vous retrouve tout à l'heure pour un prochain point sur l'actualité internationale et nous allons parler de ce qui se passe sur le continent américain et notamment en Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Ils sont arrivés en tenue de combat mais dansant et sous les acclamations à Port-au-Prince. Les premiers policiers kényans ont enfin posé le pied en Haïti hier. Ils sont 200 pour le moment sur le millier promis par Nairobi. Ils vont commencer à organiser la logistique, à baliser le terrain et à mener des opérations de reconnaissance. Retour sur cette arrivée tant attendue avec notre correspondante à Port-au-Prince, Marie-Andrée Bélange.
Des applaudissements pour accueillir les policiers kényans sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture. En treillis, casque sur la tête et armes en bandoulière, ils sont arrivés à bord d'un avion de la compagnie Kenya Airways. Ces hommes et femmes sont sortis de l'appareil en brandissant fièrement le drapeau kényan. Haïti, en proie à une violence démesurée, mise sur cette mission multinationale pour ramener la paix et la sécurité. Le Premier ministre Gary Conille.
On voudrait remercier le président Ruto pour son engagement à appuyer Haïti durant ce moment difficile. On remercie également le peuple kényan pour sa solidarité envers le peuple haïtien. C'est une opportunité unique pour deux peuples séparés par des océans, mais liés par l'histoire, d'être solidaires dans les moments difficiles. Nous allons travailler pour reprendre petit à petit le contrôle de notre pays.
Le Kenya est le seul pays à avoir répondu présent pour prendre la tête d'une force multinationale pour soutenir la police haïtienne dans sa lutte contre les gangs. La chef de la délégation kenyane, Dr Monica Juma, s'explique.
Nous avons décidé de venir en Haïti parce que le peuple haïtien, comme tous les autres peuples dans le monde, a besoin de la paix, de la sécurité et mérite le développement. On reste attaché à notre mission de soutenir la police nationale haïtienne pour rétablir l'ordre public et la sécurité.
Dans les rues, les transports publics, les gens commentent l'arrivée des policiers kenyans. Ils n'ont qu'un souhait, comme ce technicien en télécommunication rencontré dans un restaurant à Port-au-Prince.
Je suis content. J'aimerais qu'ils se mettent au travail pour combattre les bandits armés. J'espère qu'ils ne vont pas faire comme les précédentes missions de l'ONU qui venaient prendre du bon temps. J'ai besoin de reprendre une vie normale. Je ne compte pas quitter le pays. J'ai mon travail ici. J'aimerais que les policiers kényans et la police nationale, à travers leurs unités spécialisées, travaillent ensemble pour rétablir l'ordre dans le pays afin qu'on puisse sortir de cette situation.
Un millier de policiers kényans sont attendus à terme à Port-au-Prince. Ils devraient être rejoints par des contingents du Bangladesh, du Bénin, du Tchad ou encore des Bahamas. Marie-André Bélange, Port-au-Prince, RFI.
Et pour mieux comprendre les enjeux, les défis qui attendent ces policiers kényans, on va échanger avec un expert de l'International Crisis Group, si les lignes téléphoniques nous le permettent. Non, pas tout de suite. Bon, on n'a pas de chance. On va dire un petit mot peut-être du regard que porte la presse sur tout ce qui se passe, sur l'arrivée donc de ces policiers kényans en Haïti. Avec peut-être un mot, Christophe Paget, vous qui avez lu la presse haïtienne pour nous, d'un certain scepticisme que l'on peut lire dans le Nouvelliste. C'est ce que nous dit le journaliste Franz Duval dans son éditorial aujourd'hui.
Oui, les Kenyans sont là. Quels sont nos plans ? Demande Franz Duval. L'éditorialiste déplore que, comme lors des deux débarquements précédents de forces étrangères en Haïti en 1994 et en 2004, il n'existe aucun vrai plan pour construire et consolider les institutions démocratiques ni les organes de sécurité. Encore une fois, le pays va essayer de bricoler des solutions en cours de route. La seule différence, remarque-t-il, c'est que toute la classe politique, tous les représentants du secteur privé, toutes les associations de la société civile et tutti quanti sont au pouvoir avec le Conseil présidentiel de transition. Et plus personne de la classe politique ne met en cause l'opportunité de ce déploiement kényan.
Christophe Paget, on vous retrouvera dans quelques instants pour voir ce que dit la presse haïtienne de cette arrivée de policiers kényans. Mais nous sommes en ligne avec Diego Darin, expert pour l'International Crisis Group. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en ligne de Port-au-Prince. C'est donc une première étape importante, même si les opérations sur le terrain ne vont pas commencer tout de suite. Alors, on entend souvent à propos de Port-au-Prince que 80% de la ville est contrôlée par des gangs. On entend aussi les noms de certains quartiers, de certaines banlieues revenir régulièrement comme des cibles de la violence des gangs. Quelle est la situation aujourd'hui et où se concentrent ces groupes criminels ?
Oui, donc bien sûr, il y a des nuances à apporter à ce chiffre de 80% de la capitale contrôlée par les gangs, parce qu'il y a bien sûr les bastions qu'ils contrôlent complètement et où les forces de sécurité ne sont capables d'y pénétrer depuis des mois, voire des années. Et aussi, ils ont des zones d'influence dans lesquelles ils se permettent, par exemple, de réaliser des kidnappings, des activités d'extorsion, de commerce, etc. Aujourd'hui, la situation a énormément évolué depuis le début des attaques concertées entre cette fédération des deux coalitions qui avant étaient rivales. Cette offensive qui a commencé à la fin février, au début elle a commencé de manière extrêmement agressive avec une violence inédite, des attaques sur des infrastructures critiques, l'aéroport, les ports, des commissariats. Les attaques ont fluctué au cours des mois depuis la fin février. Et ce qu'on voit, c'est que depuis la fin mai, les gangs avaient détruit à la fin mai certains commissariats, certaines prisons, mais notamment dans les zones qu'ils contrôlent complètement, pour prévenir pour essayer de détruire les sites qui pourraient être utilisés par la police et par le personnel de la mission internationale comme des bases dans leur combat contre les gangs. Mais depuis la fin mai, on constate une diminution des activités violentes et contre les forces de sécurité. Il y a eu bien sûr quelques combats dans certaines zones du bas de la ville, à Delma, à Martissan, à Croix-des-Bouquets, c'est-à-dire dans la plaine, dans les entrées nord et sud, mais notamment lorsqu'il y a des incursions de la police. Et ces opérations de la police, elles sont surtout concentrées dans le bastion du chef de gang connu comme Barbecue Jimmy Charizier.
Et alors, est-ce que les policiers ont pu revenir dans les commissariats dont vous nous parliez à la faveur de cette relative accalmie ?
Les commissariats qui se trouvent dans les zones ou qui sont complètement contrôlés par le gang ou qui sont près de ces espèces de limites un peu changeantes ont été abandonnés depuis plusieurs mois par les policiers qui se sont concentrés notamment dans la défense des quartiers qui ne sont pas encore contrôlés par les gangs. Ces commissariats-là, dont je parlais tout à l'heure, ils sont pour une grande partie d'entre eux très endommagés ou complètement ou partiellement détruits.
Parmi les lieux où il y avait eu des tirs très fréquents, il y avait aussi le Palais National. D'ailleurs, c'est ce qui avait poussé le nouveau gouvernement à s'installer ailleurs, à la villa d'accueil. Est-ce qu'aujourd'hui, ce palais est toujours menacé ?
Les gangs ont assiégé le Palais National il y a plus ou moins un mois et demi, deux mois. Ces attaques ont considérablement diminué, même s'ils ont des bases d'attaque, par exemple l'hôpital général qui est très proche du Palais National. Ils ont encore des postes de surveillance et ils sont prêts à attaquer, mais les attaques sur le Palais National se sont plus ou moins arrêtées depuis quelques semaines, voire un mois.
Alors, vous nous avez parlé de Jimmy Charizier. Il a publié un message dans une vidéo il y a quelques jours, un message dans lequel le ton était vraiment très, très différent de celui qui était utilisé ces derniers mois. Il a lancé un appel au dialogue. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce changement de ton ?
Donc oui, il y a un changement. Je pense qu'il faut aussi rappeler que Charizier, il a toujours appelé, bon, depuis au moins un an, il a appelé à ce que, depuis qu'il y a des plans qui commencent à avancer pour envoyer une mission de sécurité pour soutenir la police dans le combat contre les gangs, en prévention et dans l'attente de cette force qu'il croit qu'elle va être plus forte qu'eux, contrairement à la police qui est très fragile en ce moment. Charizier, il a toujours demandé à ce qu'il y ait des dialogues et pas des combats pour essayer de résoudre la question de sécurité. Alors, il l'a demandé de manière très différente, de manière un peu plus directe maintenant en Premier ministre. Avant, il le demandait de manière, il y a quelques mois, il le demandait de manière très agressive. Avec les attaques qui ont été lancées depuis février, notamment pendant le mois de mars. Donc, il y a un changement de ton. Aussi, ce qui a changé, c'est qu'il y a un appel direct aux autorités, direct au Premier ministre, alors qu'avant, Charizier refusait le scénario de s'asseoir dans une table de négociation avec le gouvernement de transition dirigé par l'ancien Premier ministre Ariel Henry.
Et alors justement, le Premier ministre de transition, Gary Conille, lui, a été interrogé sur cette question par la presse. Christophe Paget, vous avez lu pour nous le journal Le Nouvelliste, qui a donc interpellé Gary Conille.
Oui, par rapport à aux dernières déclarations de Jimmy Charizier qui l'appelait, lui, directement à un dialogue pour résoudre le problème de sécurité. La réponse est évidente, a répondu Gary Conille. D'abord, il faut déposer les armes, ensuite reconnaître l'autorité de l'État haïtien avant toute autre disposition et nous verrons ce que nous pouvons faire. Et le Premier ministre a dit lui aussi directement aux membres des gangs: je suis certain que vous êtes fatigué avec ces destructions que vous avez créées. Je suis sûr et certain que vous êtes prêt à faire votre mea culpa.
Alors voilà ce qu'a dit le Premier ministre. Diego Darin, est-ce que selon vous, les gangs sont prêts effectivement à s'engager dans un processus de désarmement ?
On ne peut pas dire avec certitude si tous les gangs seraient prêts à, comme le dit le chef Jimmy Cherizier, à entrer dans un processus de négociation. Ça, c'est la position qu'il met en avant. Lui, il se présente comme le porte-parole de Vivre Ensemble, cette fédération entre des coalitions qui, jusqu'à il y a très peu, étaient rivales et qui se sont battues de manière féroce et extrêmement brutale depuis des années. Maintenant, elles se sont regroupées dans une fédération, plutôt dans un pacte de non-agression, non pas pour vivre ensemble, mais pour travailler ensemble, pour combattre ensemble les forces de sécurité, mettre à genoux l'État haïtien et essayer de dérailler les plans pour déployer une mission de sécurité. Donc, pour le moment, ils combattent ensemble. On ne sait pas si le reste des importants chefs de gang qui sont moins visibles sur les médias, les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas pour autant moins puissants que Jimmy Cherizier, on ne peut pas dire avec certitude qu'ils vont vouloir s'aligner derrière la position de Cherizier, de dialoguer ou bien de continuer à combattre.
Je vous remercie Diego Darin d'avoir été en ligne avec nous en direct de Port-au-Prince. Je rappelle que vous êtes expert pour l'International Crisis Group.
RFI à Paris, 89 FM.
Et on va vous retrouver Christophe Paget pour feuilleter la presse du continent aux États-Unis, où l'on parle d'un procès qui commence aujourd'hui à Moscou. C'est celui du journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, qui est accusé d'espionnage.
Et appeler ça un procès est injuste pour Evan, et c'est une continuation de cette parodie de justice qui a déjà duré trop longtemps, écrit ce mercredi le rédacteur en chef du Wall Street Journal, qui répète qu'Evan Gershkovich est innocent. Le journaliste a été arrêté, on le rappelle, il y a un peu plus d'un an lors d'un reportage en Russie. Il est accusé d'espionnage et risque 20 ans de prison, rappelle le Washington Post, qui précise que c'est la première fois depuis la guerre froide qu'un journaliste américain est jugé pour espionnage. Le New York Times pointe l'absence de preuves avancées par les autorités russes. L'an dernier, le département d'État américain avait jugé qu'il était détenu à tort, ce qui explique le journal, oblige le gouvernement fédéral à travailler à sa libération. Nous espérons que les efforts des États-Unis pour libérer Evan et les autres détenus américains en Russie signifient qu'ils rentreront bientôt et ce ne sera jamais assez tôt, conclut le Wall Street Journal.
Autre journaliste, Ruben Zamora, détenu au Guatemala depuis 2 ans. Il devait sortir de prison hier, mais en fin de compte, cela n'a pas été le cas.
Oui, Ruben Zamora, 67 ans, fondateur du quotidien El Periodico, un journal connu pour ses enquêtes sur la corruption au sein du gouvernement de l'époque, celui d'Alejandro Giammattei. Un journal poussé à la fermeture, tandis que Ruben Zamora était, lui, condamné à 6 ans de prison pour blanchiment d'argent. Il devait être libéré, rappelle La Hora, une liberté conditionnelle avec assignation à résidence. Seulement voilà, hier, le procureur Rafael Corruchiche a annoncé qu'à sa demande, la cour d'appel avait révoqué cette liberté conditionnelle, écrit Prensa Libre. Rafael Corruchiche rappelle Prensa Comunitaria, qui figure sur une liste dressée par les États-Unis d'acteurs corrompus et antidémocratiques, et que l'actuel président Bernardo Arevalo, élu l'an dernier sur un programme anticorruption, accuse d'avoir tout fait pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. Sur le réseau social X, José Carlos Zamora, le fils de Ruben Zamora, a réagi au maintien de son père en prison. « Cela fait 697 jours que mon père est détenu arbitrairement dans le cadre d'un faux procès au cours duquel tous ses droits ont été violés. »
Christophe Paget pour la revue de presse, à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Tessa Gromann, pour parler du premier tour des législatives. Ça se passera samedi en Guadeloupe.
Et comme partout en France, l'archipel enregistre un record de procurations. Aux Abîmes, la plus grosse commune en nombre d'électeurs, la mairie est submergée. Armise Véron est responsable du service élections.
Nous avons beaucoup de demandes par procuration parce qu'on a eu les élections européennes et ceux qui faisaient des demandes de procuration l'avaient fait uniquement pour les élections. Et là, ils n'avaient pas fait pour un an. Alors on a beaucoup de demandes, plus de 1000 demandes à peu près. On les reçoit par courrier ou bien le mandant apporte lui-même.
Vous vous attendiez à avoir autant de demandes ?
Non. On ne s'attendait pas à avoir beaucoup de demandes. C'est une période de stress pour tout le monde, hein. Que ce soit pour les candidats, les électeurs, les agents de la ville qu'on doit mobiliser pour cela. C'est une organisation particulière, bien qu'on soit préparé au départ, mais là, c'est une organisation particulière parce qu'on a été pris au dépourvu, en fin de compte.
Et comme vous le précisiez, le premier tour des législatives en Guadeloupe a lieu samedi et non dimanche. Manifestation des agents du centre hospitalier aujourd'hui en Martinique. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Seul un service minimum est assuré dans un très grand nombre de services du CHU. Dans le sud de la Martinique, la réorganisation du transport scolaire oblige les élèves à se réabonner pour la rentrée prochaine. La campagne a ouvert depuis hier. Des permanences les accueillent, notamment à Ducos, tout près de Fort-de-France. Xavier Chevalier, Martinique la première.
Faut faire la réinscription.
Daniel et Claude, deux pères, sont parmi les rares à venir inscrire leur fils. Dès leur arrivée, deux des 19 étudiants embauchés pour la campagne les accueillent. Chacun est dirigé vers l'une des trois bornes qui permettent de renouveler les abonnements. En une dizaine de minutes, les dossiers sont complétés, ou presque.
Les bornes, ça se passe assez bien. Sauf que, bon, je maîtrise un peu, mais je ne suis pas dans l'air de l'informatique. Bien que je m'y mets.
La campagne d'inscription a débuté lundi 24 juin. Elle se termine le vendredi 19 août. En Martinique, entre 17 et 18 000 scolaires prennent le bus pour se rendre en cours. Parmi eux, 7 000 utilisent le réseau Sud-Lib.
Il date de 1889. Le marché de Cayenne, monument classé, a donc grand besoin d'être modernisé. La municipalité a lancé hier des concertations avec les riverains et les professionnels pour définir un projet de réhabilitation. Jonathan et Violette travaillent sur ce marché depuis de nombreuses années et ils se réjouissent de ce chantier.
Il y a de la rouille qui tombe sur les stalles, sur les stands. Tous les matins chauds, j'ai renettoyé tout le stand. Quand il y a un petit vent qui passe, il pleut, c'est vraiment dégueulasse.
Très, 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 très content. Pour moi, c'est une chose que toute la population de la Guyane et ailleurs va aimer. Parce que quand quelqu'un rentre dans le pays, la première chose que la personne te demande, emmène-moi au marché.
Propos recueillis par Olivier Damone, Guyane la première. Et puis le compte à rebours est désormais lancé avant le premier tir de la fusée Ariane 6. Les techniciens viennent de valider la répétition générale des opérations qui a eu lieu le 20 juin dernier. Le lancement inaugural est prévu le 9 juillet prochain entre 15 et 18 heures à Kourou en Guyane.
Merci Tessa Groman. On va se quitter avec de la musique et le guitariste de jazz des États-Unis, Ali Dimeola. Voici le morceau Mediterranean Sundance. Aldi Meola et son morceau Mediterranean Sundance. Le guitariste sera en concert ce soir à Ottawa, au Canada. Et c'est ainsi que se termine RFI Midi, émission réalisée aujourd'hui par Vincent Biteau. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 11h, temps universel. Et tout de suite, dans 30 secondes, c'est Pascal Paradou que vous retrouvez pour De Vive Voix. Très bonne journée à tous.
RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Au sommaire du club de C'est pas du vent, l'incroyable potentiel des champignons, la préservation du bois de santal à Madagascar, le recyclage des réfrigérateurs au Portugal et la place de l'écologie dans les élections en Europe.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.